Mais qu'est-ce que ça?
Hein? Mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh! Ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Dossier bizarre. Jason Lévesque est à l'animation aujourd'hui et la présentation du sujet. Monsieur Tristan Brunet-Dupont, bonjour.
Salut Jason.
Ça va bien?
Ça va bien toi?
Ça va très bien. Je suis vacciné.
Moi,
c'est le vaccin Moderna que j'ai reçu. Les gens qui se posent la question, ils disent, un jeune homme en pleine forme comme lui, comment ça qu'il se fait vacciner? En fait, c'est que l'endroit où j'habite, on est juste à la limite d'une région éloignée, considérée comme éloignée, et les infrastructures de santé ici ne peuvent pas supporter une grosse éclosion. Donc, s'il y avait 20 ou 30 personnes qui tombaient malades assez gravement de la COVID-19 ici, ce serait catastrophique. Alors, les régions éloignées reçoivent le vaccin Moderna. Pourquoi le Moderna? Parce qu'il est plus facile à transporter, étant donné qu'il n'a pas besoin d'être entreposé à des températures très, très, très froides comme le vaccin de Pfizer. Alors, ce vaccin-là, quand il arrive au Québec, on l'utilise pour l'envoyer dans les régions éloignées, étant donné qu'il est plus facile à transporter. Alors, je suis maintenant compatible 5G, Tristan.
Ah, c'est fou pareil. Tu fais partie des premiers humains sur la planète qui sont vaccinés contre la COVID.
Oui. C'est quand même fou. Ah, c'est quelque chose. Alors, voilà, donc, c'est la raison pour laquelle on enregistre une journée plus tard cette semaine, étant donné que je me faisais vacciner. Alors, voilà. Et avant qu'on commence, Tristan, je veux aussi saluer quelqu'un. Je veux saluer Edouard. Edouard a 11 ans. Il a découvert Dossier bizarre grâce à son papa. Quand ils font une promenade en voiture entre hommes, ils se mettent un dossier bizarre. Et il nous écoute comme ça en se promenant en voiture. Alors, je tenais à le saluer ce matin. Là. Pas ce matin, mais aujourd'hui, Edouard qui a découvert, grâce à son papa, les dossiers bizarres. Salut, Edouard!
Excellent, excellent. Hein? Je vais me faire attaquer par mon chat. Les
ah non!
Du télétravail.
Ben voilà, c'est... Puis j'en ai parlé tout à l'heure sur la page Facebook. Là. Les chats sont des extraterrestres, Tristan.
Oui, c'est ça, j'ai vu la photo tantôt.
Et voilà, donc un chat sur trois serait un extraterrestre. Il va falloir en parler un moment donné.
C'est eux qui nous contrôlent.
Tristan, de quoi on parle aujourd'hui? C'est toi qui nous présentes le sujet. Et c'est un sujet, un, qui a été proposé par un auditeur, et deux, que je ne connais, mais absolument pas. J'ai aucune idée dans quelle direction ça en va.
Ben oui, je tiens à saluer Mario, chauffeur d'autobus de la ville de Québec à la RTC, qui nous a proposé ce sujet. Alors, c'est le projet N.
Le projet N.
Exact.
Mais c'est quoi ça, le projet N, Tristan?
On s'en va dans les secrets de la Seconde Guerre mondiale.
Oh, ça, j'aime ça. Ça, j'aime
ça. On a parlé un peu, l'autre fois, on en a glissé un mot, là, du décryptage des messages des Allemands. La Seconde Guerre mondiale, il y a plein de mystères, il y a plein de secrets, il y a des archives qui ont été détruites. Et il s'est passé quelque chose, un phénomène historique majeur au Québec. Par rapport à tout ça. On sait que le projet Manhattan aussi, il y a eu des recherches qui ont été faites aussi à Montréal.
Oui.
La recherche pour trouver la fameuse bombe atomique. Et c'est pas juste ça. Il y avait le projet Manhattan, le décryptage des messages allemands et troisièmement, la mise au point d'une arme biologique, Jason.
Oh, là on tombe dans... Oui, c'est les armes biologiques. Habituellement, c'est pas très chic ce que ça fait, ce que ça donne ou ce qu'on veut faire avec ça.
Non, exactement. Puis... J'ignorais totalement cette histoire-là, puis c'est en fouillant là, que j'ai trouvé certains documents sur le web, mais c'est vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de documentation, jusqu'à ce que je tombe sur un vieux documentaire de RDI qui date des années 80-90, où j'ai pu trouver là, pas mal d'informations là-dessus, mais c'est incroyable. Donc, on va y aller avec ce projet-là, le projet N.
Absolument, parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. J'ai vu passer le message comme toi, là, de Mario, mais sans plus, je n'ai aucun détail. J'ai aucune idée où tu nous amènes aujourd'hui.
All right, alors, on va commencer par prendre la machine à voyager dans le temps.
Encore!
Et voilà, on est à l'intérieur et on remonte à l'époque de la triste Seconde Guerre mondiale. Donc, tout commence au début de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Europe tombe face aux troupes allemandes. En juin 1940, la France est conquise et les Anglais se replient en panique. En 1940, 4000 avions bombardent Londres À ce moment, les Britanniques sont affolés et craignent déjà une attaque d'armes biologiques par les Allemands. Selon les journaux locaux, à Londres, c'est la panique. On pouvait lire que les Allemands possédaient déjà l'arme biologique. Mais en vérité, les Allemands faisaient des grandes recherches scientifiques pour trouver une arme biologique, mais ne détenaient pas encore la clé d'une recette efficace. Il y avait les armes chimiques qu'ils utilisaient depuis la Première Guerre mondiale, mais sans de redoutables nouvelles percées scientifiques là, dans ce domaine à cette époque-là.
Et depuis l'époque, ben, on avait trouvé des manières plus ou moins de contrer les armes qui avaient été utilisées dans la Première Guerre mondiale. À la Deuxième Guerre mondiale, oui, c'était encore des armes là, qui étaient dévastatrices, mais on avait trouvé des manières de contrer ou de se protéger plus ou moins contre ces armes-là. Alors, on avait besoin d'innovation.
Exactement. Donc, les Alliés craignaient là, de se faire attaquer quand même par une nouvelle arme biologique des Allemands. Tu sais, la peur prenait beaucoup de place hein, à cette époque-là. On s'imaginait toutes sortes de choses, mais en vérité, comme tu dis, les Allemands n'avaient pas encore de nouvelle arme biologique. Les Alliés non plus, d'ailleurs.
Aha.
Et c'est ce qui motiva les Alliés de créer une arme biologique. Et celui qui est derrière là, cette initiative des Alliés, c'est Frédéric Grant Banting. Lui, il est né le 14 novembre 1891. C'est un médecin et scientifique canadien récompensé par le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1923 pour avoir découvert l'insuline.
Oh, OK.
Donc, lui, il se rend en Angleterre pour parler de son idée de guerre d'armes biologiques. Donc, c'est un peu un paradoxe parce que c'est un...
Ben oui.
C'est un homme qui a sauvé des millions de vies avec l'insuline.
Absolument.
Mais là, il veut se lancer dans la mort. Comment tuer le plus de soldats des forces ennemies?
C'est quand même particulier, hein? Et passer c'est ça, je fais des recherches pour aider le plus de gens possible à passer à faire des recherches pour tuer le plus de gens possible.
Exactement. Donc, au Canada, le Conseil national de la recherche a déjà été convaincu par Banting. Des études secrètes sont en marche dans les universités canadiennes, mais elles manquent de fonds. Donc, c'est vraiment un début-début. Là. Il ne se passe pas grand-chose là. En 1940. C'est vraiment le commencement. Banting convainc donc le Canada. Mais là, ça prend de l'argent. On n'a pas assez d'argent pour poursuivre les recherches. Donc, Banting va convaincre des hommes d'affaires de financer directement les recherches. Parmi les hommes d'affaires qui ont décidé d'embarquer dans le mouvement, il y a Samuel Bronfman, qui est propriétaire de la distillerie Seagram,
ben oui.
Et président du Congrès juif canadien.
Les Bronfman, c'est une famille qui est encore connue et dont on entend encore de temps en temps le nom circuler, des fois en association avec, à l'époque, des expos de Montréal, entre autres.
Exact. Et c'est quand même plutôt surprenant d'apprendre que, tu sais, des hommes d'affaires qui ont plutôt bonne réputation, ils ont un petit côté secret caché qu'on a appris avec les archives, qu'ils étaient en fait des investisseurs pour la recherche pour trouver une arme biologique mortelle. Tu sais.
Ben oui.
Et il y a John David Eaton, le propriétaire de la chaîne de magasins Eaton, qui participe aussi aux investissements de la recherche. Ils donnent chacun un quart de million de dollars, une somme impressionnante pour l'époque.
Ben oui.
Bon, donc, un quart de million de dollars chacun.
Qui est en argent d'aujourd'hui et qui voudrait là, à plusieurs millions de dollars.
Exactement. Et en échange de ces investissements, on leur donne le droit d'assister à toutes les réunions secrètes sur la recherche militaire, y compris sur la recherche sur les armes de destruction massive, donc le projet Manhattan. Et Samuel Bronfman en profite, il assiste à toutes les réunions sur la recherche sur le projet Manhattan et sur la recherche des armes biologiques.
C'est quand même comique, hein, parce que c'était des hommes d'affaires qui avaient de l'argent, qui ont financé des recherches militaires. Ils avaient accès à plein de secrets militaires sans nécessairement avoir les compétences ou la capacité de gérer tout ça ou de garder le secret. C'est quand même particulier.
Oui, c'est exactement ça. Il y a une photo d'archives d'ailleurs, c'est vraiment drôle parce qu'on voit tous les scientifiques, les plus grands scientifiques de l'époque, et on voit Samuel Bronfman, un gars super riche, qui est juste là avec son veston de cravate, qui lui comprend probablement pas grand-chose à la science, mais qui est là, puis qui est au courant de tout. Tu sais.
Il se faisait un devoir d'assister à toutes les réunions qu'il pouvait, c'est quand même particulier.
Exactement. Petit fait cocasse, les fonds sur la recherche militaire s'appelaient le Fonds Père Noël.
Oh, OK.
Donc, c'était quand même cocasse. Là, tout l'argent qui était mis par les investisseurs, par les gouvernements pour la recherche scientifique, qui s'appelait le Santa Claus Fund.
Eh ben, OK.
Et,
Ben, alors, les noms de code, les noms secrets à cette époque-là, des fois, c'était un peu étrange, mettons.
Oui, c'est assez bizarre. Mais en même temps, c'est pour cacher, tu sais, je sais pas si on l'avait appelé, je sais pas, le fond ben oui, 432, le... quelque chose. Le fond Père Noël, ça, on dirait que ça enlève des doutes, tu sais, sur, ouais. sur le côté macabre et mystérieux de la chose.
C'est un peu joyeux pour une arme bactériologique, mettons.
Exactement. Le Père Noël qui est responsable de la création des armes les plus mortelles sur Terre, tu sais.
Mais c'est quand même particulier parce que ça reste quand même... C'est un développement ou un projet qui allait avoir une utilisation militaire, militaire par les Alliés, hein, parce que bon, on le sait, il y a plein de pays qui se sont associés pour faire face là, à l'Allemagne, et puis bon, aux forces là, de l'Axe de l'époque, et ces pays-là se finançaient entre eux, s'aidaient, on le sait, bon, les États-Unis, avant même de s'impliquer dans la guerre, il y avait un effort de fournir des armes, de fournir de ne plus récolter des dettes, par exemple, pour aider financièrement certains pays qui, eux, étaient impliqués directement. Et là, on a un projet qui va servir ces mêmes pays-là, incluant les États-Unis, parce que c'est les Alliés, donc c'est un espèce de fonds commun, si on veut. Mais c'est des hommes d'affaires canadiens qui ont donné leur argent pour développer ça sans que les pays soient impliqués directement. Il y a comme une espèce de, je sais pas, un conflit d'intérêts bizarre dans ma tête. Je suis pas capable de l'expliquer, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas.
Ben, c'est bien, c'est une excellente analyse, Jason, parce qu'au début, comme tu le dis, il manquait un peu d'organisation derrière ces projets-là, derrière l'investissement, de qui commande, qui s'occupe de quoi. Donc, c'était un peu du n'importe quoi. C'était un peu broche à foin de la manière qu'on organisait ces projets-là. Et on est encore au début donc, de ces recherches-là, de ce projet-là. Et avec tout l'argent récolté, la recherche s'accélère dans les laboratoires au Canada. Et celui qui a parti tout ça, Benting, Frédéric Benting, participe. Lui, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Oh mon Dieu, le chat vient de sauter sur mon ordinateur.
Ben dis, voyons, hey, ça va pas bien?
Quand il part, lui-là, là, il est signé avec un... Mais ouais, Frédéric Benting, il est vraiment bizarre, Jason, parce que dans les laboratoires, il va faire des tests avec des agents de guerre chimiques que l'on connaissait déjà, comme le gaz moutarde, et il va même faire une expérience sur lui-même, qu'il va le regretter par la suite parce que son bras, son avant-bras va être brûlé dégueulasse au troisième degré.
Okay.
Donc, il a fait un test sur lui-même, là, c'était un peu bizarre.
Oh, c'est donc bien spécial.
Ouais, puis Frédéric Benting va devenir complètement obsessif et un peu intense avec ses recherches. On peut lire dans un de ses écrits, dans un journal intime, il avait écrit « Nous devons tuer 3 ou 4 millions de jeunes Allemands sans merci, sans pitié. Il est de notre devoir de les éliminer. »
Hey, boy.
Donc, la haine avait pris le dessus un peu là, sur... il était complètement obsessif.
Quand même particulier hein, que on avait cette mentalité-là de je veux dire, on se rapproche un peu d'une mentalité de sociopathe. Là. C'est aucun sentiment envers le fait qu'on tente d'éliminer. C'est pas 3-4, c'est pas 3-4 000. Si on parle de millions de jeunes Allemands, c'est incroyable de ces paroles-là qui sortent de la tête d'un homme de science ou de quelqu'un qui est supposé de mettre ses connaissances pour le bien. Là.
C'est vrai. Ils disent que sa haine pour les Allemands est apparue lors de la Première Guerre mondiale quand il était médecin. Parce que lui, il voyait les patients, les soldats arriver complètement défigurés par les gaz toxiques comme le gaz moutarde et tout ça.
Mm-hmm.
Et c'est là que sa haine est apparue envers les Allemands. Donc, il a créé l'insuline, il a gagné un prix Nobel. Mais c'était quelqu'un qui était vraiment en rage. Lui, il voulait vraiment les comme il le dit, lui, il voulait les éliminer.
Beaucoup de colère.
Comment?
Beaucoup de colère chez cet homme.
Exactement. Et Frédéric Benting, le promoteur, et celui qui poussa l'initiative de la recherche sur une arme biologique redoutable, lui, il se déplaçait beaucoup hein, pour suivre le projet à la grandeur du pays et dans les autres pays. Des fois, il allait à Londres pour essayer de pousser les gouvernements à embarquer dans le projet. Et à un moment donné, il se retrouve dans un avion à Terre-Neuve qui était supposé se rendre à Londres. Il voulait accentuer les recherches en Angleterre, mais il ne verra jamais la suite de tout son projet. En février 1941, cet avion s'écrase.
Oh.
Et Benting mourra.
OK.
Donc, c'est la fin de Frédéric Benting.
Fait que l'initiateur du projet comme tel, qui a vu qui a mis au monde ce projet, qui a trouvé son financement, décède avant même que le projet soit vraiment en marche.
C'est ça. On est en février 1941. Et là, bon, les recherches se poursuivent entre février et décembre 1941. Mais en décembre 1941, c'est l'attaque du Japon à Pearl Harbor.
Ben oui!
Donc, ça plonge les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale et relance le débat sur les armes biologiques. Pendant ce temps-là, on apprend que le Japon a attaqué la Chine avec des armes biologiques, texte, typhus, choléra et anthrax. Les Japonais ont fait des tests macabres en attaquant le Mandchourie en Chine avec des armes biologiques. Et là, les Alliés ont maintenant la crainte de se faire attaquer par les Allemands et les Japonais avec des armes biologiques. Donc, la peur des armes biologiques, des armes bactériologiques, ne fait que grandir. Mais on a découvert dans les archives que les Allemands n'avaient pas encore d'armes bactériologiques.
C'est pas un défaut d'essayer, hein, parce qu'on sait qu'il y a eu énormément. On a éliminé, on a tué énormément de prisonniers de guerre, de prisonniers juifs dans les camps, mais il y avait une grosse partie de ces prisonniers-là qui servaient aussi de cobayes, justement, pour tenter de développer des armes.
Exactement, un peu partout là, sur la Terre. T'sais. Là, je vous parle précisément du projet N qui s'est passé au Québec, mais qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, un peu partout pour trouver justement des armes bactériologiques? C'est des secrets qui sont probablement absolument atroces, là, macabres, qu'on ne connaîtra peut-être jamais. Mais en tout cas, sur le projet N, j'ai réussi à trouver quelques détails. C'est en Angleterre qu'un centre de recherche secret voit le jour près de Londres. C'est là que va naître le projet N. Le projet N, dans le fond, N, c'est le nom de code militaire pour l'anthrax.
Oh, OK!
Donc, l'anthrax, là, c'est ça qu'on va, c'est ça qui tourne autour du projet N. Là. C'est l'anthrax. Vous allez voir, on va en parler beaucoup pendant ce dossier-là.
Et l'anthrax qui est revenu, parce que ça ne date pas d'hier, mais c'est l'anthrax, on en a entendu parler un peu après les attentats du 11 septembre, où là, il y a des enveloppes contenant de l'anthrax qui avaient circulé aux États-Unis et certaines personnes qui en sont décédées parce qu'ils en ont reçu par la poste.
Exactement, c'est extrêmement mortel, cette forme-là, là, cette molécule, ce produit-là, cette matière-là, l'anthrax, là, c'est l'un des produits toxiques les plus mortels sur Terre, là. C'est vraiment dégueulasse. C'est en 1942 qu'on va tenter une première offensive avec l'anthrax. Cette opération se nommera l'opération végétarienne. Elle consistera à tuer le bétail de l'ennemi. Donc l'Angleterre va produire 5 millions de gâteaux contaminés.
C'est pas drôle, mais en même temps, je m'attendais pas à ça partout.
Je te jure, pour vrai, Jason, il y a tellement de rebondissements dans cette autour du projet N, c'est n'importe quoi. Puis écoute ça, le pire, c'est qu'on a produit 5 millions de gâteaux contaminés, mais le projet est abandonné. Parce qu'on a déposé des gâteaux dans les fermes en Allemagne puis tout pour tuer le bétail, ça n'a pas d'allure, c'est bien trop... C'est même trop impossible. L'efficacité sur le terrain, c'est juste impossible.
Ah, oh boy! Fait qu'on n'avait pas trop réfléchi au projet avant de commencer la production.
Exactement. Alors, tout ce qui tourne autour de ce projet-là, pour vrai, c'est incroyable. Les militaires veulent une arme sur l'humain plus directe pour freiner l'armée allemande. Donc, les petits gâteaux empoisonnés qu'on va donner aux bœufs, c'est pas ce que l'armée veut.
OK.
Donc, on effectue alors un premier test de bombe à l'anthrax sur une petite île inhabitée en Écosse, l'île Greenhard.
OK.
Attention aux cœurs sensibles, parce qu'on a fait venir des moutons sur l'île pour observer les effets de l'anthrax. Donc, 3 jours après avoir contaminé l'île, tous les moutons sont morts. Finalement, l'horreur se produit, l'anthrax contamine toute l'île au grand complet, décimant tous les animaux sur l'île. Donc, c'est vraiment une île qui est complètement contaminée. Les Britanniques vont donc chercher un endroit plus isolé pour poursuivre les expériences. Et ils se tournent alors vers le Canada.
Ah ah!
On va aller contaminer d'autres places, mais pas chez nous.
Ben oui, c'est ils ont été experts durant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, à faire des tests un petit peu partout, mais jamais bien sur leur terrain à eux autres.
Exactement. Donc, c'est vraiment en faisant le test là, sur l'île Greenhard en Écosse qu'on se rend compte qu'en fait, qu'on ne veut pas faire ça en Angleterre. Donc là, en Angleterre, on se dit, oh, bon, on pourrait aller au Canada, c'est grand, il y a de la place, on pourrait trouver un endroit là, où on pourrait poursuivre les recherches. Et les recherches se poursuivaient aussi sur les armes avec l'anthrax au Canada. Donc, pendant ce temps-là, il y a toujours dans quelques universités, dans quelques laboratoires, des recherches qui se faisaient sur l'anthrax. Des scientifiques de plusieurs universités, dont l'université McGill, tentent de convaincre Washington de se lancer dans la recherche sur les armes biologiques. Et c'est en fin avril 1942 que les États-Unis acceptent de se joindre à la recherche sur les armes biologiques. Par contre, les États-Unis vont concentrer leur recherche sur un vaccin qui pourrait protéger le bétail contre la peste bovine. Donc, les États-Unis, eux autres, dans la recherche sur les armes biologiques, eux autres, ils disent, nous autres, on ne se concentre pas sur l'anthrax, nous autres, on va se concentrer sur le vaccin contre la peste bovine, une maladie qui pourrait être introduite en Amérique et qui pourrait potentiellement décimer le bétail partout.
OK. Donc, là, on n'a rien d'offensif dans ça, c'est vraiment pour éviter de se retrouver dans une situation où on perd notre bétail, un peu comme, ben, en fait, on a tenté ou on a voulu le faire du côté britannique avec les fameux gâteaux contaminés qui n'ont jamais servi. Et ça semble être une préoccupation, le bétail, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a l'air d'être important.
Ben oui, puis je m'attendais pas pantoute à ça, mais effectivement, c'était une sorte d'offensive qui était possible, en fait, de transmettre cette peste dans les fermes de bétail. C'était une forme d'attaque qui était possible. Donc, on voulait se préparer à cette éventualité-là, et les États-Unis ont dit, nous autres, on s'en occupe, on va préparer un vaccin. Donc, si jamais ça arrive, on va pouvoir sauver notre bétail.
Ben, c'est ça.
Et les Canadiens et les Britanniques vont, quant à eux, orienter les recherches sur les armes avec l'anthrax. Mais pour ça, il faut trouver un lieu secret. Et c'est pendant une réunion du comité M1000, un comité qui regroupait les scientifiques responsables de la recherche militaire sur les armes biologiques. Donc le comité M1000, c'était vraiment tout le monde, les scientifiques de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, qui se rassemblaient pour discuter de ce projet-là. Et on s'entend pour deux choses. On doit trouver un vaccin pour la peste bovine et trouver une arme bactériologique.
Donc, on veut plaire aux Américains qui, eux, veulent se concentrer sur un vaccin pour protéger le bétail, mais on veut aussi avoir une arme offensive ou quelque chose qui va nous servir sur le champ de bataille avec véritablement une arme bactériologique.
Exactement. C'est les deux orientations du gros projet là, lors de la Seconde Guerre mondiale par rapport à cette recherche sur les armes bactériologiques ou les armes biologiques. Et là, ça prend une place pour faire toutes ces recherches-là. Et pendant cette réunion avec le comité M1000, Grosse-Île est mentionnée pour la première fois.
Donc, on cible ce lieu-là comme potentiel endroit pour aller s'installer, pour faire des recherches ultra-secrètes.
Exactement, en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Seulement, il y a des scientifiques canadiens qui disent, ben là, hey, wow, Grosse-Île, c'est à seulement 4000. On utilisait les 1000 dans ce temps-là. Là,
ben oui.
Donc, 4000 de la ville de Québec, alors qu'on recommande d'être à au moins 50 000 de toute habitation pour éviter une contamination.
Ah oui, c'est tout près de l'île d'Orléans. Je suis en train de regarder là, justement là, l'endroit. C'est petit, c'est relativement petit là, comme territoire, mais c'est quand même près de plusieurs lieux habités. Là. On n'est pas, pas totalement isolé comme on a pu l'être, là, la fameuse île où on a emmené les moutons, là, qui s'appelle aujourd'hui Anthrax Island encore. Là, on l'appelle encore comme ça. C'était relativement isolé. Là, grosse île, on est quand même proche de plusieurs. On n'est pas très loin de Montmagny, pas très loin de l'île aux grues, pas très loin de l'île d'Orléans, c'est quand même, il y a de la population autour de ça.
Ben oui, exact, puis c'est tragique, ben, pas, dans le sens que ça a pris de mai à juillet de discussion avec tous les scientifiques de chaque pays pour décider où on faisait les recherches, et c'est en juillet 1942, au Château Frontenac à Québec, que finalement la majorité du comité, qui regroupe, je le rappelle, des scientifiques de partout, vote pour choisir Grosse-Île, malgré l'inquiétude d'une minorité de scientifiques qui était pour la plupart québécois-canadiens.
Donc, ben c'est ça, on avait peur, nous autres, parce que c'était chez nous, mais les autres, ça les dérangeait moins un petit peu.
Exactement, c'est vraiment... C'est exactement ça. Hey, on veut pas faire ça chez nous, c'est à côté de Québec, puis tout. Puis là, les autres font, hey, ben, c'est pas chez nous, fait qu'on va
ben, c'est ça. C'est pas proche de chez nous, fait qu'on est correct. Alors, ben oui, si jamais vous allez aller voir là, sur Google Maps, là, vous faites tout simplement une recherche avec Grosse Île Québec, et puis vous allez voir, c'est en plein centre du fleuve Saint-Laurent. Ça peut pas être plus au centre que ça. Et c'est à l'est de l'île d'Orléans, et pas très loin. Alors, partout autour de ça, là, c'est de la population, là. C'est pas très, très loin de plein de lieux habités.
Exactement. Et Grosse-Île va donc devenir l'un des endroits les plus secrets de toute la Seconde Guerre mondiale.
Ah ouais?
Juste en face de Québec.
Hey.
Grosse-Île va être séparée donc en... Peut-être que je suis en train de regarder le temps. Est-ce qu'on y va peut-être pour...
Ben oui, on va y aller maintenant qu'on a situé qu'on a fait l'historique, on a situé à quel endroit on s'en allait et que je l'ai en plus sous les yeux sur l'écran. On va faire une petite pause et on va revenir, on va repartir de là. Alors là, on est rendu à créer notre arme bactériologique et c'est ici au Québec, en plein centre du fleuve Saint-Laurent, que ça va se passer.
Exactement. Toutes les recherches pour trouver l'arme bactériologique et pour trouver le vaccin contre la peste bovine, toutes ces recherches-là, on a décidé de faire ça sur l'île, grosse île, en face de Québec.
Excellent. Alors, on va à la pause, Tristan, et on revient tout de suite après.
Excellent.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Pneus d'été!
Soleil!
Des pneus d'hiver!
Des petits flocons de neige!
Des pneus à clous!
Marteau!
Des pneus à fesses!
Prout!
Au garage de pneus et de mécanique, Gaëtan, on n'a pas compris, nous autres, non plus, ce que ça voulait dire, la publicité.
Depuis 40 ans!
On est de retour et on parle aujourd'hui du projet N, le projet de recherche d'armes bactériologiques durant la Deuxième Guerre mondiale qui s'est passé tout près de chez nous, ici au Québec, à Grosse-Île. Alors là, on a fait un peu l'historique, Tristan. On sait que, bon, au départ, ça a commencé un peu tout croche. Les Américains veulent un vaccin. On a les Britanniques qui, eux autres, font des gâteaux empoisonnés pour le bétail allemand. Ça fonctionne pas. C'est un peu désorganisé. Et là, on semble s'être assis, là, d'avoir réfléchi un peu à une stratégie un peu plus réfléchie, un peu plus organisée. On a besoin d'un lieu et c'est au Québec que ça va se passer. Une île qui est tout près de Québec, au large de Montmagny, près de Québec, et on a décidé que c'est là que ça allait se passer.
Exactement. À Grosse-Île, c'est donc l'un des endroits les plus secrets de toute la Seconde Guerre mondiale, et ça se passe chez nous, au Québec, en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, à 4 milles seulement de la capitale de la province de Québec, donc... À côté de la ville de Québec, comme tu viens de le dire. Et c'est là qu'on va faire la recherche sur le vaccin pour la peste bovine et la recherche pour trouver une arme bactériologique avec l'anthrax.
L'anthrax! Alors, on est là, on a trouvé le lieu. Alors, j'imagine qu'on va construire des structures. On dit que c'est un projet ultra secret. Alors, tout ça se fait dans le secret et on a besoin d'un laboratoire pour développer ce genre de choses-là.
Exactement. Donc, on commence à bâtir les laboratoires et Grosse-Île est séparée en deux parties. L'ouest de l'île pour le projet R. R pour Radnor Pest, donc la peste bovine. Et l'est pour la production d'anthrax. C'est le projet N. Donc, on retrouve sur l'île une trentaine de chercheurs, une trentaine de scientifiques et la sécurité est d'une centaine de soldats.
Donc, on veut être certain que les scientifiques vont pouvoir travailler en paix.
C'est ça, exact. Et il y a André Williams, un soldat québécois qui assurait la sécurité, qui était soldat, qui raconte là, que c'était top secret. Même eux, les soldats, ne savaient pas trop qu'est-ce qui se passait. Ils savaient qu'il y avait des recherches scientifiques, mais ils ne savaient pas du tout pourquoi ni comment. Donc, les soldats étaient là vraiment pour assurer la sécurité et c'est tout.
Ils connaissaient leur rôle, mais ne savaient pas ce qu'ils protégeaient.
C'est ça, exactement. Je ne sais pas si on va l'entendre, Jason. J'ai comme un petit extrait ici de ce que André Williams va dire. Peut-être qu'on ne l'entendra pas. Je vais l'essayer, c'est 5 secondes. Sinon,
m'enverras l'extrait et puis je l'insérerai dans le podcast.
Ben oui, puis, regarde, on va l'essayer. On est en direct. Des fois,
on l'essaye.
Je lis sur mon speaker, direct là, regarde.
Je suis faisant la barbe, ça m'a pris. Et puis, j'ai tant que moi, tu es même d'air. Si vous parlez trop, cet homme fait mourir. Ben là, c'est votre portrait qui va dans mes rêves.
Est-ce que t'as entendu?
On entend, mais je suis pas certain qu'on est capable de bien déceler ce qu'il dit. Mais on essaiera de l'intégrer là, dans l'audio quand je vais faire le montage tout à l'heure.
Excellent. Dans le fond, le monsieur est assez âgé, là, bien sûr, là, parce qu'il c'est un soldat de l'époque. Et, bon, il est peut-être autour de 80, 90 ans. Et il marmonne quand même, mais il dit que quand on se rasait la barbe, il y avait des risques de contamination, donc il fallait faire attention. Et quand on parlait aussi, on le sait avec les masques aujourd'hui, hein, on porte des masques avec la pandémie, on a appris à... On le sait que c'est efficace pour éviter une contamination. Et c'était écrit, donc, il y avait des affiches qui disaient « Si vous parlez trop, vous pouvez tuer vos amis. »
Oui. Ben oui, et puis c'était très populaire, hein. Il y a des gens qui... c'est possible maintenant d'en acheter, là, mais les fameuses affiches, les fameux posters de propagande de la Deuxième Guerre mondiale, c'était ça, c'était « Il a parlé. » Puis là, on voyait un bateau qui coule en arrière. Genre qui explose avec du monde sur des radeaux, puis là, il y avait un soldat en gros plan, puis ça disait « Il a parlé », parce qu'il avait dévoilé des secrets sans nécessairement, sans que ce soit volontaire, mais bon, il avait dit des choses qu'il aurait pu dire, il n'aurait pas dû dire, et on mettait beaucoup l'emphase sur « Faites attention à ce que vous dites, vous êtes au bar en train de prendre une bière, la personne à côté de vous, c'est peut-être un espion », on mettait énormément de pression sur les gens comme ça, de faire attention à ce qu'on disait.
Ah, c'est exactement ça. C'était vraiment pour éviter, justement, là, de transmettre les secrets de cette île. Puis, en tout cas, de ce que André Williams raconte, là, il dit que c'était vraiment incroyable, là, tout ce qui se passait là, sur l'île. Les soldats avaient bien peur. Et en 1943, les chercheurs ont proposé de faire une première offensive avec la peste bovine. Alors, on sait qu'on essayait de trouver un vaccin. Mais là, tant qu'à trouver le vaccin, ils manipulent donc la maladie dans ces laboratoires. Et là, les scientifiques disent, ben, on pourrait créer une offensive, nous, on va aller contaminer le bétail en Allemagne avec cette peste-là. Mais les risques de contamination sur notre propre territoire étaient trop élevés. Donc, l'offensive est complètement abandonnée.
OK. Donc, on ne voulait pas risquer de contaminer le bétail local en préparant un poison pour attaquer le bétail des Allemands ou de l'ennemi.
Exactement. Donc, encore une fois, on a parlé tantôt des
les gâteaux.
Les gâteaux. C'est abandonné. Et là, on veut attaquer avec la peste bovine. C'est abandonné. Donc, les projets d'offensive et de défense des armes bactériologiques pendant la Seconde Guerre mondiale, à date, il ne se passe rien. Il ne se passe pas grand-chose, en tout cas. Les recherches se font. Il y a des millions de dollars qui sont investis. Mais pour ce qui est des attaques concrètes sur le terrain, pour l'instant, il se passe rien.
Il n'y a rien qui bouge, c'est ça. On n'a pas de résultats sur le champ de bataille. Il n'y a pas de résultats actuellement.
Exactement. Fait bizarre, Jason, les scientifiques qui prenaient constamment des douches sur l'île, de grosses îles, pour éviter de se contaminer avec l'anthrax ou la peste, et ils travaillaient souvent complètement nus.
Oh!
Pour éviter la contamination sur des vêtements.
Ben oui, c'était un laboratoire de nudistes.
Et ça, c'était plus du côté de la peste bovine, là, selon les soldats. Ils disaient que des fois, ils voyaient les scientifiques se promener tout nus.
C'est quand même particulier. Puis eux, ils savent pas pourquoi. C'est des soldats, donc eux autres, ils ont eu leurs ordres qui est de protéger les installations, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Fait que eux autres, ils protègent, puis quand ils regardent par la fenêtre, ils voient que les scientifiques sont tout nus, mais ils doivent s'imaginer un paquet d'affaires.
Exactement, ça ajoute un côté mystérieux et
ben oui, absolument.
À toute cette histoire, au projet M. Pourquoi on a choisi l'anthrax? L'anthrax, en fait, c'est parce que ça résiste aux explosions.
OK.
Donc, le but là, ultime de la recherche sur l'anthrax, c'était qu'on pouvait mettre de l'anthrax dans des bombes.
Ah!
Donc, la bombe, bon, ça explosait, donc ça créait un... Mais la bombe ne faisait pas juste exploser, la bombe pouvait contaminer en plus. Donc, c'était comme un peu comme une épée empoisonnée. Si l'épée ne te tue pas, son poison le fera.
Ben voilà. Donc, alors, l'explosion elle-même allait faire des dommages au moment d'exploser, mais il allait rester des... de l'anthrax. Donc, on contaminait aussi les gens qui survivaient à l'explosion.
C'est ça. C'était ça le but ultime du projet N, en fait. C'était de créer des bombes à l'anthrax. Et la production, eh bien là, la production, c'était assez élevé. On produisait sur Agrosil 120 kilos de charbon bactériologique par semaine. Ça équivaut là, à peu près 1500 bombes à l'anthrax par semaine.
OK. Ça fait qu'on, là, on est en mode production, donc on est prêt à envoyer ça dans une usine où on va l'intégrer dans des bombes pour l'envoyer au front ou l'envoyer sur le champ de bataille.
Exactement. C'était l'objectif, mais dans le fond, les 120 kilos de charbon bactériologique par semaine, on pouvait créer avec ça des litres d'anthrax pur.
Okay.
Mais on ne créait pas les bombes en soi au laboratoire, on créait l'anthrax.
On créait le poison pour après ça être intégré dans des bombes.
Exactement. Mais les bombes n'étaient pas créées. On ne s'est pas rendu jusque-là, Jason, parce que les problèmes commencent à apparaître à Grosse-Île.
Aha!
Les équipements de protection pour éviter d'être contaminés à l'anthrax ne sont pas assez efficaces.
Oh!
Donc, les travailleurs, les techniciens, les scientifiques, les soldats tombent malades.
Oh! 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 Ah, c'est pas n'importe quoi là, de l'anthrax, là. C'est pas un rhume, là.
Non, exactement. Il y a deux personnes qui vont décéder carrément dû à la contamination à l'anthrax. Et les cas de malades continuent à augmenter. Donc, toutes sortes de problèmes, de la fièvre, les gens sont affaiblis. Il y a une contamination sur l'île. Et personne n'avait le droit de savoir. Donc, les gens dans les hôpitaux à Québec qui recevaient des gens de Grosse-Île, ils n'avaient pas le droit de savoir de quoi
donc,
les gens étaient
malades. Donc, ils traitaient des gens sans savoir de quoi ils étaient malades.
Exactement. Puis là, il y avait des rumeurs partout autour de l'île, à Québec, puis de l'autre bord de la rive aussi, dans le coin de... En fait, les villages de la Rive-Nord, là, je ne m'en rappelle plus
du ouais, nord. Oui, là, si on s'en va du côté de la du côté de Nord, bon, il y a Sept Chutes, Saint-Tite-des-Caps, Rivière-des-Roches, Beaupré, Saint-Joachin. Donc, c'est en fait, là, ça longe la route 138 quand on s'en vient chez nous.
C'est ça, exactement. Puis, des deux côtés du fleuve, là, près de Grosse-Île, les citoyens avaient peur des soldats qui, des fois, étaient libres d'aller passer un peu de temps... en dehors de l'île de Grosse-Île.
Ouais, mais là, lui, il vient de la place que le monde malade arrive puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont.
Mais c'est ça, puis les citoyens avaient peur des soldats qui venaient de Grosse-Île. Vraiment, ils les fuyaient. Là. C'était genre, oh mon Dieu, les soldats de Grosse-Île arrivent, fuyez!
Ben, avec raison, moi aussi, j'aurais une crainte si je sais, bon, moi, je suis ici, puis il y a des tests qui se font. Il y en a des îles ici là, qui ne sont pas habitées. Là. Puis là, il y a une installation militaire qui s'installe. Puis là, j'apprends dans un mois qu'il y a des soldats de cette installation-là qui sont à l'hôpital. Ils sont très malades, mais on ne sait pas de quoi. Puis là, je m'en vais à l'épicerie, puis je croise des soldats qui sont en permission. C'est certain que je vais me tenir loin, Tristan. Puis c'est juste, je pense, naturel. C'est mon cerveau va tomber en mode de protection. Puis il va dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent avoir, ce monde-là. Tiens-toi loin. Puis je pense que c'est tout à fait normal. On a créé ça, veux pas, en gardant le secret autour de ce qui se passait là.
Exactement, non, c'est vrai. La peur s'est instaurée par le mystère, en fait, qui entourait la Grosse-Île. Personne ne savait c'est quoi qui se passait là. On savait qu'il y avait des tests, des scientifiques qui faisaient des affaires, mais personne ne savait c'était quoi. Donc, la peur apparaît. Mais la peur sur l'île aussi, la peur des soldats, la peur des chercheurs apparaît en 1943, Jason, parce que les Allemands savent que les Canadiens travaillent sur des armes biologiques.
Oh, donc là, c'est plus secret, là.
Exactement. La rumeur s'est propagée. Les Allemands sont au courant. Et là, il y a donc des sous-marins qui vont commencer à circuler un peu partout dans le fleuve Saint-Laurent. Et là, il y a une peur qui s'installe sur l'île de Grosse-Île d'une attaque d'Allemands. On a peur, là, les soldats, les scientifiques ont peur constamment de se faire attaquer, de se faire surprendre le matin en pleine nuit par des Allemands. Mais finalement, c'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu d'attaque de sous-marin.
Ben, on sait qu'il y a déjà eu des sous-marins allemands hein, qui sont venus dans l'embouchure du fleuve, qui se sont rapprochés un peu dans le fleuve, là, qui se sont rapprochés de certains lieux au Québec. Mais je ne pense pas non qu'il n'y ait jamais eu d'attaque comme telle. Pas seulement en Grosse-Île, mais en général, je ne pense pas que ces sous-marins-là aient fait quoi que ce soit, à part probablement venir espionner un peu ce qui se passait ici. Mais oui, il y a eu quelques rapports là, de sous-marins allemands qui s'approchaient de peut-être pas jusqu'à Québec, là, mais qui entraient dans le fleuve Saint-Laurent et qui seraient venus faire quelques visites.
Exactement. Dans les documents que je trouvais, là, c'est exactement ça. Jason, il disait que les sous-marins étaient plus sur la côte américaine, mm-hmm. près, ben, Québec, Canada, États-Unis. Puis eux autres, dans le fond, les sous-marins descendaient les bateaux qui quittaient l'Amérique pour se rendre en Europe. Donc, ils restaient vraiment près de la côte, mais ça arrivait des fois, effectivement, qu'il y avait des sous-marins qui se rendaient dans le fleuve Saint-Laurent. Il y en a un qui s'est rendu à Toronto, là, il me semble. Mais bon, à Grosse-Île, il n'y a jamais eu d'attaque là, officielle d'un sous-marin, mais c'était la peur quotidienne là, pour les scientifiques et les soldats qui étaient sur Grosse-Île.
Bon. Donc, on avait peur parce que les Allemands savaient maintenant. Donc, ce qui devait rester secret n'est pas resté secret très, très longtemps.
Exactement, exactement. Mais on ignorait que c'était pour faire des bombes à l'anthrax. On savait qu'il y avait des recherches, mais pour faire des bombes à l'anthrax, ça, c'était pas connu. En 1944, bon, juin 1944, c'est le débarquement de Normandie.
Mm-hmm.
Là, Churchill, lui, avec le débarquement, il voit les Américains débarquer et tout. Il dit, nous autres aussi, on veut participer. On a investi beaucoup dans la recherche bactériologique, des armes bactériologiques. Il dit, moi, je veux bombarder 6 villes allemandes avec 500 000 de bombes à l'anthrax.
Oh!
Donc, lui, là, Churchill, là, c'est pas compliqué. Il voulait vraiment un peu comme le premier scientifique.
Oui, lui, il voulait éliminer le plus d'Allemands possible.
Exactement.
Civils, militaires, politiciens, peu importe, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, il voulait bombarder.
Exactement. Donc là, il se tourne vers le projet N, au Québec, à Grosse-Île, qui va de moins en moins bien. Donc, Churchill dit, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir 500 000 de bombes à l'anthrax? Ça fait des années qu'on investit là-dedans. Puis là, on se rend compte qu'en fait, qu'à Grosse-Île, c'est le chaos de plus en plus. La contamination augmente par les mouches, parce qu'il y avait plein de mouches qui, supposément, c'est pas prouvé à 100%, Jason, mais les mouches, ils se posent partout sur la nourriture et des fois, ils se posaient sur des endroits contaminés à l'anthrax. Et après ça, les mouches se posaient sur les humains et ça contaminait les humains à l'anthrax. Donc, c'est une hypothèse. Les mouches, mais à ce qui paraît, les gens viraient fous sur l'île parce qu'il y avait plein de mouches. Puis ils disaient « Ah, je suis contaminé à cause des mouches! » Il y avait aussi une contamination. Ça, c'est prouvé par une fuite d'anthrax dans un tuyau.
Ah!
Donc là, rien ne va plus. Là, les gens sont de plus en plus contaminés. Le projet est même sur le point d'être annulé alors que Churchill veut les bombes. Et ça va pas bien. La production va vraiment pas bien. On veut faire un test avec une bombe à l'anthrax en Alberta. Finalement, c'est annulé parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé en Écosse là, sur l'île de Greenland.
Ouais.
Puis on le sait que ça a contaminé l'île au grand complet. Puis là, les scientifiques disent, écoutez, on peut pas faire de test en Alberta. Les soldats qui vont être prêts puis tout ça, ça marche pas. Là. Tout le monde va être contaminé, c'est trop dangereux. Donc, le test de la bombe à l'anthrax en Alberta est annulé. Et en août 1944, la production d'anthrax à Grosse-Île, c'est en août 1944, quand on se rend compte que les Alliés gagnent du terrain là, en Europe et tout, et que les recherches de la bombe atomique vont super bien, c'est là que les recherches sur l'anthrax puis les armes bactériologiques Ça commence, là, on commence à comprendre que ça ne marchera pas.
Ben, c'est ça, c'est là. On a toute une épopée, là, on a toute une histoire. Mais là, ce que je comprends, c'est que malgré tout ça, les investissements, les recherches, les projets, les infrastructures construites, on a grosso modo utilisé une île au complet. Puis finalement, on regarde, on dit, ben écoute, ça va bien leur affaire. On n'aura peut-être pas besoin d'en faire finalement. Alors tout ça a mené à rien finalement.
Oui, exactement. C'est une conclusion qui est plutôt inattendue. T'sais, on s'attend à ce qu'il y a comme un dénouement t'sais, avec
ben
ça,
oui.
Qu'est-ce qu'on va faire.
J'attendais le punch, moi, là. Je me disais, bon, à un moment donné, ils vont y aller, puis ça va être comme, hey, là, ils les ont utilisés, puis ça a contribué à l'effort de guerre, puis finalement, plut, il s'est pas passé grand-chose.
c'est là que ça devient malheureusement intéressant, Jason, parce que c'est quand on parle des secrets de la Seconde Guerre mondiale, ça, c'en est un qui est très triste pour nous, en fait, pour nous au Québec, parce que tu vas voir, pas parce qu'on n'a pas réussi, là, tu vas voir, c'est vraiment, je veux pas, le punch s'en vient.
Oh, OK. C'est donc, c'est pas fini, on n'arrête pas ça, là.
Comment?
J'ai dit, on n'arrête pas ça, là. Donc là, on sait que le débarquement de Normandie, on sait qu'à partir de là, les Alliés ont engrangé beaucoup de victoires. Il y a eu des défaites aussi là, assez salées, mais on a continué quand même à avancer là, de manière assez efficace à partir du moment où il y a eu le débarquement de Normandie et on n'avait pas utilisé l'anthrax qui était produite à Grosse-Île. Fait que là, on est rendu là. Moi, dans ma tête, l'histoire se finissait là. On disait, ben écoute, les boys, ça n'a pas marché. On retourne à la maison, mais il se passe d'autres choses.
Oui, exactement, parce que même si on n'a pas réussi à créer là, les fameuses bombes à l'anthrax, pendant toutes ces années-là, Jason, on a créé au total, sur l'île de Grosse-Île, 439 litres d'anthrax.
Fait que là, on est pris avec ça.
Oui, c'est moins que l'objectif initial, mais selon les chercheurs, ça donne 70 milliards de doses mortelles. Donc, il y avait assez d'anthrax à Grosse-Île pour tuer 30 fois la population mondiale de l'époque.
Hey, yo, OK. Fait que là, on fait quoi avec ça, là? On flush pas ça dans la toilette, là.
Malheureusement, Jason, on connaît hein, les avancements par rapport à la connaissance environnementale pendant la Seconde Guerre mondiale. On se préoccupait pas du tout de l'environnement.
Non, pas très.
Et c'est pas vrai. Moi, je capotais. J'étais genre, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Qu'est-ce qu'on a fait avec ça, Jason? Ben, on est allé le domper dans le fleuve.
Ah, pas vrai? Ben, voyons donc.
Ben oui, on a mélangé l'anthrax à des solvants dans des gros barils. Puis on a fait reposer ça quelques semaines en pensant que ça allait décontaminer l'anthrax. Puis on est allé domper ça un peu plus loin, là, en plein milieu du fleuve Saint-Laurent.
Ben voyons donc.
439 litres d'anthrax dans notre bon fleuve, dans notre bon vieux fleuve Saint-Laurent.
Ben, c'est pas juste au niveau environnemental que ça aurait pu être catastrophique. Là. Ça aurait pu avoir, ça a peut-être eu des impacts sur la population. Est-ce qu'on a une manière de mesurer s'il y a eu des impacts? Est-ce qu'on a eu des études par après? Est-ce qu'on a fait un suivi? Je me dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il y a quand même des poissons qui sont pêchés dans ce fleuve-là. Il y a une partie de l'eau du fleuve qui passe. Là. Puis à cette époque-là, il ne devait pas avoir d'usine d'épuration aussi évoluée. Qu'aujourd'hui, il y a des villages qui utilisent cette eau-là. Ah, voyons donc!
Ils disent que, pour vrai, là, en faisant un peu les recherches, premièrement, c'est très triste parce qu'il y a une grosse partie des archives, des documents de Grosseil qui ont été détruits dans le déplacement des livres d'une bibliothèque où on avait toutes ces données-là. Tout ça a été détruit, perdu. Donc, il y a vraiment plein de mystères qui sont encore autour de l'île de Grosseil, y compris les résultats là, de qu'est-ce qu'on a fait avec l'anthrax, mais on le sait en tout cas, c'est avec peu de détails, on sait que c'est ce qu'on sait. L'anthrax a été mélangé à du solvant, il a été mis dans des gros barils, puis les barils ont été jetés dans le fleuve. Ensuite, on sait que ça prend 100 ans pour que l'anthrax disparaisse, soit vraiment plus nocif. Donc là, ça fait à peu près,
ça veut dire qu'il y a encore de l'anthrax actif quelque part dans le fleuve Saint-Laurent, ou bon, peut-être rendu dans l'océan, là, mais ou ailleurs, mais on sait que il peut encore avoir des particules de ça qui datent de l'époque de Grosseil qui est actif.
C'est clair que ça a créé des impacts nocifs au niveau de l'environnement dans le fleuve Saint-Laurent, c'est certain. On s'entend que jeter 439 litres, même si c'est pas... T'sais, on les a enfermés dans des barils, mais t'sais, les barils de l'époque, ça a rouillé. Il y a eu des fuites, c'est clair, là, dans le fleuve. Mais bon, on peut clairement se douter que de 1944 à les 60 années après, parce que là, selon la science, 100 ans après, dans le fond, l'anthrax, ça vit à peu près 100 ans. T'sais, donc. Fait qu'après 100 ans, l'anthrax n'existe plus, mais... C'est sûr que ça l'a pollué le fleuve, là. Ça l'a contaminé, ça l'a rendu toxique dans ce coin-là, c'est certain.
Incroyable comme on n'avait aucune conscience environnementale à cette époque-là, c'est incroyable.
Ah, c'est vraiment triste. T'sais, on jette pas, on n'est pas en train de jeter du plastique, on jetait de l'anthrax. C'est genre le produit le plus mortel et toxique qu'il n'y a pas sur Terre. Là. C'est complètement stupide, mais bon, c'est ce qui est arrivé, ça fait partie de... ça fait partie un peu des secrets tristes là, de la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, Jason, pour finir, là, on a poursuivi les recherches, pas sur l'anthrax, mais sur la peste bovine jusqu'en 1956. Les laboratoires de la peste bovine là, ont servi jusqu'en 1956 parce que bon, il y avait la guerre froide et on voulait se préparer à une éventuelle offensive de l'URSS, d'une offensive là, de peste bovine en Amérique par l'URSS. Donc en 1956, on a arrêté toutes les recherches sur l'île de Grosseil et le projet R et le projet N disparaissent dans le néant.
C'est assez spécial hein, que ce soit tout près de chez nous. Là. C'est quand même pas très loin d'ici. C'est pas très loin de chez vous. C'est pas très loin des grands centres de population du Québec qui étaient déjà des grands centres à l'époque. Qu'il y ait eu tout ça durant cette période-là, c'est quand même assez particulier. Puis, c'est pas quelque chose qui est connu. Je veux dire, quand tu m'as parlé projet N, je me suis dit, bon, ben ok, c'est quelque chose d'un peu flyé qui s'est passé là, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Je pensais pas que c'était aussi près de chez nous. Et c'est quand même tout un pan de la recherche scientifique canadienne durant la Deuxième Guerre mondiale qui s'est passé là.
Absolument, parce que c'est fou pareil là, quand on y pense. C'est exactement ça. T'sais, dans les trois grosses branches là, de recherche scientifique qui ont mené à des résultats pendant la Seconde Guerre mondiale, je le rappelle, c'est le projet Manhattan, la bombe atomique, le décryptage des messages allemands et finalement la mise au point d'une arme biologique. Ces trois branches-là, c'est des millions de dollars, c'est une collaboration des alliés. C'était ces trois projets-là là, qui étaient supposément utiles pour gagner la guerre. Et le projet de l'arme biologique, ça s'est passé en majeure partie sur l'île de Grosse-Île, en face de Québec.
C'est assez particulier parce que on en a parlé au début, là, l'anthrax qui fait partie encore d'un poison ou d'un qui peut être utilisé comme arme, qui peut être utilisé pour être capable de tuer des gens quand même de manière assez efficace, là, de rendre très, très, très malade. L'anthrax, on appelle ça la maladie du charbon en passant, là, si jamais vous voulez faire une recherche. C'est le Bacillus anthracis, le nom latin. C'est assez, si on regarde là, ce que ça peut faire, c'est assez impressionnant, là, la maladie là, de l'anthrax. Là, ça attaque les poumons, ça attaque le système respiratoire, ça attaque notre système, nos systèmes vitaux. Qu'on en ait produit autant, puis là encore aujourd'hui, hein, ça reste très dangereux. Fait que souvent, on voit des affaires qui ont été faites durant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale qui aujourd'hui, c'est pratiquement disparu ou c'est rendu plutôt inoffensif. L'anthrax, ça reste dangereux. Là, ça. Quand on manipule de l'anthrax, c'est dans des laboratoires scellés, vraiment, on ne doit pas être contaminé, on ne doit pas en sortir non plus. Les chercheurs qui travaillent dans ces labos-là sont inspectés, sont fouillés, on surveille pour être certain qu'ils n'en amènent pas pour en faire une souche qu'ils pourraient utiliser par après. Fait que c'est encore quelque chose qui est considéré comme extrêmement dangereux.
Oui, ça fait peur en plus, juste le nom de l'anthrax.
Ouais, ben c'est ça.
Ça sonne méchant, tu sais, dans nos oreilles. Puis comme tu le dis, c'était effectivement l'un des produits les plus dangereux sur Terre. Peut-être un petit fait cocasse. Pendant que je faisais ma recherche, Jason, à la fin, je cherchais qu'est-ce qu'on avait fait avec ça. Puis dans ma tête, j'étais comme, s'il vous plaît, faites qu'on l'aille pas domper dans le fleuve, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Là, tu l'avais senti.
Exact, je tombe sur des images où tu vois des images d'archives sur un bateau. Tu vois les soldats qui jettent ça en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Puis ils disent qu'on a malheureusement jeté ça dans le fleuve. J'étais comme non!
Non, ben c'est incroyable parce qu'il y a plusieurs. L'anthrax, je suis en train de regarder rapidement là, la fiche médicale de l'anthrax. Là, ça peut affecter l'humain à plusieurs niveaux. Il y a une forme cutanée qui peut vraiment, là, ça ronge la peau, l'enveloppe corporelle. C'est assez incroyable. Là, des œdèmes qui s'identifient, qui prennent du volume puis qui finissent par défaire la peau. Il y a une forme gastro-intestinale aussi. Consommation de viande qui contient des endospores, c'est rare, mais ça peut arriver. Alors là, ça peut carrément là, détruire le système gastro-intestinal. Et la forme qu'on utilise souvent maintenant, c'est un peu comme on a vu là, suite aux attentats aux États-Unis, où on envoyait des enveloppes avec des spores qui étaient en aérosol, ben, plus ou moins là, qui se propageaient dans l'air et les gens les respiraient en aérosol. Les spores qui sont déposés dans les alvéoles pulmonaires sont phagocytés par les macrophages. Ceux-ci finissent par éclater. Les spores ainsi libérés sont transportés par le système lymphatique aux ganglions. Les spores donnent naissance à des formes végétatives qui se multiplient et qui produisent des toxines jusqu'à 60 jours plus tard, l'incubation pouvant atteindre plus de 6 semaines. Et là, le système respiratoire est complètement infecté. Alors, il y a eu des décès là, suite à ces fameuses attaques là, à l'anthrax qui ont été faites aux États-Unis parce que les gens sont tombés malades et ça peut se terminer en méningite hémorragique, en septicémie charbonneuse. C'est assez incroyable là, à quel niveau. C'est dangereux à tous les niveaux. Le contact, l'absorption par la bouche ou la respiration de l'anthrax va faire qu'il y a des grosses chances qu'on en meure finalement.
Ah, c'est ça. C'est vraiment tragique. C'est fou pareil qu'on t'sais, les scientifiques, les chercheurs, les soldats qui ont travaillé, qui ont manipulé cette matière-là. On comprend maintenant pourquoi il y a eu des contaminations. Là, c'est extrêmement toxique.
Absolument. Alors, hey, c'est assez incroyable qu'on ait eu un projet aussi secret près de chez nous.
Exactement.
Puis qu'on le mette dans la même catégorie que le projet Manhattan aussi. Parce que moi, le projet Manhattan, il y a eu des films, des documentaires, on en parle encore régulièrement. Il y a comme une mode, là, ça revient à l'avant-plan. Puis là, on a des documentaires qui sortent un peu partout. Mais le projet N, c'est encore très secret. Est-ce que je peux voir?
Oui, c'est ça. C'est très, très secret. Malheureusement, c'est ça. Il y a beaucoup de chercheurs, des historiens, en fait, au Québec, qui parlent de cette malheureuse perte des archives, des documents qui englobent toute l'histoire de Grosse-Île. Donc, c'est triste, parce qu'il y a probablement bien des affaires qu'on ignore encore par rapport à cette histoire-là. Ce qui fait en sorte que c'est encore très énigmatique, c'est encore très mystérieux, cette histoire-là là, de Grosse-Île. Mais ce que je viens de raconter aujourd'hui, c'est pas mal l'essentiel qui ressort, c'est ce qu'on sait. Mais il y a bien des affaires qu'on ne sait pas non plus.
Puis il y a beaucoup de témoins, mais malheureusement, là, rendus en 2021, qui sont décédés. Donc, malheureusement, on ne peut pas avoir de témoignages non plus de gens qui l'ont vécu. Et si la documentation a été détruite, de mémoire d'homme, il ne restera pas grand-chose. Hein, parce que, bon, c'est ça, les gens qui ont vécu l'époque, c'est tranquillement, pas vite, on les perd. Donc, on va avoir peut-être un petit résumé comme tu nous as fait va peut-être que ce qu'on vient de faire là va devenir un document d'archive un jour pour parler de Grosse-Île. Je sais que sur Grosse-Île, si on regarde, là, il y a un parc national, lieu historique national de Grosse-Île et le mémorial des Irlandais, mais ça semble être vraiment orienté vers l'histoire des Irlandais qui ont probablement eu là, qui se sont probablement installés là au début de la colonisation. Mais j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose historique par rapport au projet N, il semble pas rien avoir sur place, sur l'île elle-même, ou du moins, on n'en parle pas bien du côté touristique du projet N sur Grosse-Île. Alors, il y a un lieu historique national là, qui est là, mais c'est vraiment là, en lien avec l'histoire des Irlandais. Rien pour ce qui est du projet N dans tout ce qui est documentation touristique.
Ah, c'est vrai, puis justement... Je remercie encore Mario, qui est chauffeur à Québec, parce que c'est vraiment méconnu comme histoire. Puis dans le documentaire, le vieux documentaire d'RDI, on voit des citoyens de la région qui disent « Ah, ben tu sais, nous autres, on a juste entendu parler d'anecdotes. On n'a jamais eu d'informations concrètes. » Donc, c'est vraiment, c'est très, très mystérieux. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent par rapport à tout ça. C'est vraiment un secret, en fait, un secret de Polichinelle, un secret de gouvernement. On dirait qu'on ne veut pas dévoiler ce qui s'est passé sur cette île-là parce qu'on connaît la vérité, la fin, c'est qu'on a tout dompé ça dans le fleuve.
Ben oui!
Puis en plus, il y a eu des problèmes de contamination majeure sur l'île, donc c'est vraiment pas une bonne image, tu sais, au bout du compte, de cette... ça donne pas une bonne image de tout ça.
Non, absolument pas.
Peut-être pour ça qu'on essaie de garder ça secret, mais selon les historiens, on doit dévoiler tous les secrets de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils soient bons ou mauvais, on doit dévoiler ça pour la connaissance, pour apprendre de nos erreurs.
Ben voilà, l'histoire sert aussi à essayer d'éviter les erreurs qu'on a fait par le passé. Et de cacher nos erreurs, ben ça nous rend vulnérables à les reproduire éventuellement.
Exactement. Donc voilà, le projet N, si vous voulez voir ça. Vous pouvez voir des images des citoyens, même le soldat André Williams que je vous parlais. Vous pouvez aller voir sur YouTube, le documentaire est disponible. C'est pas mal là que j'ai pris toutes mes infos. C'est un reportage complet, donc Projet N Anthrax. Vous allez voir, vous allez tomber dessus. Là. C'est un très bon documentaire. Ça va mettre des images sur le podcast d'aujourd'hui. C'est vraiment si vous voulez. Là.
Excellent! Ah ben, hey! On en sait un peu plus sur notre petit coin de pays.
Ben oui, exact. Le projet N.
Hey, ben merci beaucoup Tristan, merci à Mario pour la proposition. Continuez de nous envoyer des messages, hein. On essaie d'interagir avec vous le plus possible sur la page Facebook. Souvent, on met des petits trucs cocasses, mais on reçoit des messages aussi, des messages vraiment le fun de gens qui nous découvrent, des gens qui ont des suggestions, des gens qui ont des commentaires. Des fois, vous avez des suggestions aussi, hein. Il y a quelqu'un qui nous avait mentionné à un moment donné, c'est le fun, mais la pause, elle dure juste 30 secondes. Faites pas un 3 minutes de résumé quand vous revenez de la pause. Elle dure juste 30 secondes. On n'est pas parti pendant une semaine et on essaie là, donc, bon, on essaie de réduire un petit peu cette partie-là. C'est des commentaires constructifs. C'est moi, tant que ça reste constructif, là, les critiques, je les prends. J'aime beaucoup quand les gens font des critiques constructives. Ça permet de s'améliorer tout le temps. Alors, continuez d'en faire, continuez de nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous aimeriez qu'on fasse différemment. Il y a des gens qui ont proposé de faire une édition spéciale avec juste des fausses pubs. On va regarder si c'est possible de faire, mais continuez d'interagir avec nous, ça nous fait toujours plaisir.
Ben oui, vraiment, vraiment. Puis, c'est super cool. Merci d'avoir partagé la publicité vidéo aussi. Je pense qu'on a eu 40 partages.
Ben oui!
Je pense qu'on a atteint quasiment le 2000 visionnements sur Facebook. Là. C'est incroyable. Merci à vous. Merci à vous.
Eh oui, ça nous a amené des nouveaux abonnés, des gens qui ont découvert Dossier Brise Bizarre grâce à ça. Alors, un gros, gros, gros merci. Tristan, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet.
All right. C'est bon, ça.
Ben super. Ben merci beaucoup.
Merci.
À la semaine prochaine. Bye bye.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
partout sur la planète. Le déploiement du réseau avec des ondes 5G est commencé. Ne laissez pas Bill Gates contrôler votre esprit. Protégez-vous dès maintenant grâce au chapeau de papier d'aluminium de marque Castofoil. Les chapeaux en papier d'aluminium Castofoil offrent une protection accrue grâce à sa surface réfléchissante, deux fois plus puissante. Mais ne prenez pas notre parole. Écoutons cette experte.
Les ondes de 5G, ça fait cuire les crottes de nez.
Grâce au chapeau en papier d'aluminium Castofoil, vous serez protégé de Bill Gates.